OK, on reste sur le sujet du coronavirus et de la pandémie. Les experts sont de plus en plus convaincus que les aérosols dégagés par la respiration humaine là, peuvent transmettre le coronavirus et infecter des êtres humains. Bien, ça pose encore une fois là, la question de l'importance de la ventilation. Et c'est pour ça qu'on recommande d'ouvrir les fenêtres si vous recevez, par exemple, quelqu'un à la maison. Et ça pose la question des édifices publics. Comme les écoles, vous le savez, plusieurs de nos écoles sont vétustes et mal ventilées. Et on apprenait dans la presse aujourd'hui qu'il y a certains centres de services scolaires qui recommandent aux directions d'école locales d'ouvrir les fenêtres des classes. Mais on en parle immédiatement avec une spécialiste des bioaérosols. Elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les bioaérosols, professeure à l'Université Laval, Caroline Duchesne. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, on a beaucoup parlé du rôle. On a découvert un nouveau mot au mois de mars, les gouttelettes dans la transmission. Là, on sait que c'est ce qu'on dégage en parlant, par exemple, ou en toussant. Des aérosols, c'est quoi par opposition aux gouttelettes?
Ben, en réalité, j'ai pas une réponse simple à vous donner parce que c'est comme un continuum. Faut le voir vraiment comme un continuum. C'est-à-dire, quand on parle, même quand on respire ou qu'on chante ou qu'on tousse, il y a des particules de toutes les tailles qui sont émises. En général, on va considérer une gouttelette quelque chose qui va tomber suffisamment vite pour pas qu'on puisse l'inhaler, en fait. Puis ça a été un des problèmes au tout début de la pandémie, là, la définition des aérosols versus gouttelettes, là, ça a comme été un genre de débat sémantique, je pense, c'est-à-dire les spécialistes en maladies infectieuses définissaient les aérosols comme c'est le cas pour la tuberculose, c'est-à-dire un aérosol très, 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 très petit qui se rend dans le fin fond du poumon quand on le respire. Mais très rapidement, les scientifiques ont dit « Ah, t'as peu, là, c'est pas comme ça. » Il y a des aérosols qui sont plus gros qu'on peut inhaler aussi. On a juste à penser aux pollens qui sont assez gros pour les inhaler. Donc, c'est des particules de plein de tailles, mais faut inclure dans la définition d'aérosol des particules aussi qui vont rester prises dans notre nez puis dans notre gorge. Ça fait partie des aérosols aussi, puis c'est ça qui amène une nouvelle lumière là au niveau de la COVID.
OK, dites-moi, professeur, la gouttelette, vous l'avez dit, là, est assez grosse, elle tombe par terre généralement. Puis on comprend que tout ça est invisible. L'aérosol, est-ce que je me trompe ou ça reste en suspension dans les airs?
Oui, pour être appelé aérosol, il faut que son temps de résidence dans l'air soit significatif. C'est-à-dire quelques minutes à quelques heures à plusieurs heures pour que on puisse éventuellement être en contact avec cette particule-là. Ceci étant dit, une particule qui se comporte aérosol dans un environnement, par exemple, avec beaucoup de courant d'air ou avec de la chaleur qui fait de la convection, pourrait en air très, très calme tomber assez vite. C'est pour ça qu'un peu les scientifiques, les médecins pensaient au début, ben si c'est pas une particule qui reste toujours dans l'air pendant très très longtemps, c'est pas un aérosol. Mais on le sait que pour être un aérosol et non une gouttelette, il faut qu'elle soit capable de demeurer dans l'air. Mais ça peut être le cas d'une particule qui va être remise en suspension par des courants d'air, par exemple, ou juste par la présence des humains qui dégagent la chaleur puis qui fait bouger l'air autour. Donc on sait que par définition maintenant, les aérosols qui peuvent entrer en contact avec notre système respiratoire, ils ont environ 100 micromètres et moins, tandis qu'au début de la pandémie, on parlait de 5 micromètres et moins qui étaient les aérosols selon la définition stricte de particules qui demeurent presque de façon infinie là, dans l'air.
OK. La façon la plus simple pour nous là, de se prémunir des aérosols qui peuvent transmettre le coronavirus, c'est quoi? C'est d'ouvrir les fenêtres?
Ben en fait là, la première étape, c'est pas de se prémunir contre les aérosols, c'est de s'arranger pour pas que les aérosols soient produits, puis c'est pour ça qu'on porte un masque depuis le début. C'est que même si on le nomme de cette façon-là, on a toujours, à mon avis, appliqué la bonne façon de s'en prémunir, c'est-à-dire en portant un couvre-visage. Ben c'est ça que ça fait. Quand on disait on le porte pour les autres, c'est exactement pour ça. Ça veut dire que quand on tousse ou quand on parle ou quand on respire, ben il y a une bonne partie de ce qu'on émet qui va rester pris là-dedans, avec des efficacités variables selon les modèles, selon les tissus, tout ça. Mais cependant, c'est la meilleure façon de bloquer, c'est bloquer la source, comme on dit. Donc, quand on le porte, c'est parce qu'on se considère nous-mêmes comme un potentiel asymptomatique, potentiel émetteur d'aérosols autour de nous et de gouttelettes, bien sûr. Okay. Donc, c'est la première chose à faire, bloquer la source. Et l'autre chose, bien sûr, c'est la ventilation. Parce que, étant donné que des fois, on porte pas le masque ou des fois, ça va être un masque, par exemple, qui sera peut-être moins efficace, bien là, c'est là que la ventilation vient jouer un rôle super important. Ça a été beaucoup négligé depuis le début de la pandémie.
La ventilation.
Oui, la ventilation, parce que il y avait beaucoup d'études, comme récemment, là, dans la région de Toronto, il y a eu des éclosions dans un centre de spinning, je crois, là. Mm-hmm. Puis dans l'article, c'était écrit que le centre appliquait scrupuleusement les méthodes de prévention requises, donc lavage des mains, port du couvre-visage, donc tout ça. Il n'y avait rien sur le taux de ventilation dans cette place-là. Puis je pense qu'il faut commencer à y penser à ça, parce que ça peut être des raisons qui expliquent des fois des éclosions dans des endroits et non dans d'autres, quand tous les autres paramètres sont comparables.
Qu'est-ce que vous recommandez aux écoles?
Bien, c'est certain que les écoles, si on regarde les recommandations au niveau des bâtiments neufs, c'est clair que la ventilation doit être hyper efficace dans les écoles. En ce qui concerne les écoles, disons, qui sont soit pas munies de systèmes de ventilation mécanique, ou qui ont des systèmes qui ne fonctionnent pas bien, ou qui n'ont carrément pas accès à d'autres options, ben il faut quand même se casser la tête et se demander comment on fait pour que des personnes qui sont dans un endroit clos pendant une période prolongée, pour diminuer les chances que si jamais il y a un émetteur dans le groupe, que ça contamine pas toutes les autres, puis il y a pas de secret, il faut renouveler l'air. Puis quand c'est pas possible de renouveler l'air, ne serait-ce qu'en ouvrant une fenêtre, ben l'option de la filtration de l'air devient intéressante, ça devient comme quelque chose à envisager. Donc d'utiliser des systèmes portatifs de filtration qu'on peut faire fonctionner des fois pendant les pauses ou qu'on peut faire fonctionner, ça dépend vraiment du bruit, mais il y a d'autres façons. Puis c'est certain que ce soit les écoles ou même n'importe quel autre bâtiment public, il faudrait que ce soit comme dans les premières priorités. On ouvre quelque chose, on ouvre un restaurant, on ouvre un centre d'achat, on ouvre un commerce. Est-ce que la ventilation fonctionne bien? Fait que de savoir ça, c'est pas terrifiant parce qu'on est dans la même situation qu'on l'a toujours été, sauf qu'en le nommant puis en l'envisageant, je trouve qu'on a un meilleur contrôle là-dessus puis ça nous donne encore une couche de protection supplémentaire.
Professeur Duchesne, vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les bioaérosols. Pensiez-vous, quand vous avez commencé à vous intéresser scientifiquement aux aérosols, qu'on en parlerait autant un jour?
Mais non, ça n'a aucune allure, là. Moi, j'arrête pas de rire parce que ça fait 27 ans que je fais de la recherche dans ce domaine-là. Puis c'est sûr que c'est un domaine de recherche en effervescence. Ça a toujours été intéressant parce qu'on s'intéresse à l'environnement de travail, les milieux agricoles, l'air extérieur, tout ça. Mais tout à coup, c'est vrai que c'est devenu, dans le langage commun, ça s'est vraiment démocratisé, la science des aérosols. Puis moi, je peux pas faire autre chose que me réjouir parce qu'à quelque part, ben les gens vont commencer à se tourner vers cet aspect-là du contrôle du risque puis des différents, tu sais, des liens avec la santé humaine. Fait que oui, je trouve que c'est intéressant là, que les gens commencent à s'intéresser à ça beaucoup plus.
Bien, merci d'avoir éclairé nos lanternes, Caroline Duchesne. Bonne journée.
Ça m'a fait plaisir. Merci. Salut. À vous aussi.
Professeur Duchesne est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les bioaérosols, 16h25.